Dresscodeur Podcast, épisode 240. Fuseau horaire, la fontaine à Bog. Enregistré le 13 octobre 2020.
Pour soutenir les Cascodeurs, n'hésitez pas à contribuer sur patreon.com/lescascodeurs. Bonjour et bienvenue au Cascodeur, épisode 240. Commence à faire frisquet, nous sommes le 13 octobre 2020.
Et il pleut, c'est vrai.
Accompagné de Arnaud et de Guillaume.
Salut les amis.
Salut tout le monde.
Ça va. On est bien occupé. On parlait des divers rhumes et choses supérieures là, un petit peu avant l'épisode. Je ressors de ma gamine qui nous a fait un petit transfert technologique de bactériologie.
Vive les enfants.
Ouais.
Bah ouais. Nous, on est un peu en rhume aussi, on se pose la question. C'est un rhume ou c'est pas un rhume?
Quel est mon pourcentage de chance de crever la Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que tout va bien de votre côté.
Portez-vous bien.
Ouais, à cette
mettez bien votre masque.
2020, ouais. Alors, nous, on a le pop filter, c'est déjà ça.
Notre micro ne sera pas contaminé.
Voilà. Alors, donc, bah, on va se lancer, écoutez, parce qu'on a quand même quelques news. Déjà, Java 15 est sorti, ça y est.
Oh là là, youhou, ça n'arrête plus.
Ouais, Rémi nous a fait un... Je ne sais pas si on peut appeler ça un résumé à ce niveau-là. Très intéressant, il vous donnait une perspective qui n'est pas exactement la même que ce qu'il y avait dans les news, donc c'était donc ça c'était cool. Quelqu'un veut se lancer?
Il y a pas mal de choses. Unicode 13, ça aurait été marrant si ça avait été Unicode 15, tu vois, genre 15, Unicode 15.
Ah ouais, un alignement.
C'est même pas aligné. Il y a les classes cachées qui ne sont pas découvrables par les frameworks, par réflexion, etc. De manière, c'est vrai que des fois, il y a tout un tas de frameworks ou langages ou autres qui créent des classes cachées qui sont utiles pour ces langages, mais qui ne sont pas censées être vues. Amélioration de perf de TreeMap. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
D'ailleurs, les classes cachées, c'est un outil de la JVM, pas tant du langage. Donc, ce n'est pas un concept du langage du tout.
Ouais, non, mais...
Comment ça se passe, en fait, vrai? Comment est-ce que tu dis, moi, je les vois et pas les autres, en fait? J'ai pas
regardé de près, mais par exemple... dans Groovy, en tout cas, on avait tendance à créer des classes qui étaient un peu des classes utilitaires, mais qui sont pas censées être utilisées directement par les utilisateurs. Donc, avoir ce vrai concept de classe cachée, mais vraiment cachée, c'est utile, quoi. Tu les vois nulle part, ni dans les traces, ni tout ça, quoi. C'est top. Enfin, je pense.
Bah, après, il y a les traces qui vont être un peu différentes, mais...
Ouais.
L'autre truc des hidden class qui est sympa, c'est que son cycle de vie est lié à une classe mère, en fait, ce qui fait qu'on peut elles peuvent être garbage collectées plus agressivement qu'une classe normale. Donc en fait, ouais, il y a un cycle de vie qui est beaucoup plus intéressant pour les frameworks. Mm-hmm. On vous laissera regarder dans le détail.
TreeMap amélioré en termes de perf, le JarSigner qui vérifie la révocation, donc ça j'ai pas regardé.
C'est son certificat, quand il est révoqué normalement il est censé aller dans une liste.
Et avant il le vérifiait pas ou
Il y a plein, d'ailleurs Chrome, on en parlait juste avant, mais Chrome c'est méchant, ouais. Il vérifie pas les révocations des certificats au sens standard du terme.
D'accord.
Ils ont leur propre façon de... Ils ont leur propre liste, en fait. Donc, le web, c'est la merde. Et voilà.
Il y a le support de SHA. On dit SHA 3 ou SHA 3? Je ne sais pas.
En français, on dit SHA 3.
SHA 3. Ça y est, Nashorn, ou Nashorn, c'est comme vous voulez. C'est Nashorn, je crois, normalement. Mais il a été effectivement enlevé, supprimé.
Ouais. Et ça, c'est chiant parce qu'il n'y a pas vraiment de super top alternative. Enfin, si, il y a soit GraalVM, mais ce n'est pas dans le JDK normal.
Ouais.
Soit il faut trouver le binding V8. Alors, il y a plusieurs versions plus ou moins stables de ce truc-là. Et s'appuyer sur le moteur V8 et de faire un appel natif entre la JVM, en gros, et le moteur V8. Donc, c'est dommage. Hein. C'est dommage.
Ouais, bah, il n'y avait pas assez de monde pour le maintenir, je crois. C'était une des raisons, en tout cas, de la suppression. Ouais. Les locks biaisés sont désactivés et dépréciés. C'est quoi les locks biaisés ?
Alors, les locks biaisés, je ne me rappelle plus le détail. Ah, mais bah, c'est
on est baisés, gros,
un lock. Je ne sais plus si c'est les locks plus récents qui ont un avantage ou plutôt les locks du même thread qui ont une priorité sur les autres locks. Je crois que c'est les locks du même thread qui ont priorité sur les autres locks. Alors, ne me prenez pas à valeur faciale, vérifiez ça. Et ça, c'était une optimisation qui avait été mis en place, mais il y a pas mal de frameworks qui s'appuyaient sur cette approche-là, notamment les couches à la Netty, Vertex, etc. Cette sémantique-là, qui était juste un détail d'implémentation, mais quand même, s'appuyait dessus. Donc, il y avait un peu un appel à test des différents frameworks pour savoir s'ils perdaient de la perf ou pas avec cette désactivation. Nous, ce qu'on a vu pour l'instant, hors Vertex, c'est que ça se passait plutôt bien dans les perfs qu'on avait vu. Donc, pour un usage, disons, si votre librairie ne s'appuie pas non plus sur des trucs hyper poussés, ça devrait pouvoir passer, mais quand même à vérifier, ouais. Et continuer, il y a encore une phase de test, puisque c'est pas la version LTS, en tout cas. Donc, vous pouvez passer l'information à l'équipe OpenJDK.
Et ZGC est prêt pour la prod.
Ouais, chez Lindoa aussi d'ailleurs.
Yes, et des améliorations d'ergonomie aussi pour G1, dont on avait déjà parlé.
Ouais, c'est-à-dire qu'on avait dit qu'il s'était aperçu, je ne me rappelle plus dans quel contexte, mais quelqu'un qui avait fait un test qui n'avait pas du tout les performances attendues par rapport à ce qu'eux voyaient, et du coup ils ont changé l'ergonomie, je crois que je crois que c'est la taille des zones, des sous-espaces mémoire là qui évolue en fonction de la taille mémoire globale qui est utilisée par la JVM plutôt que d'être fixe au démarrage, quelque chose comme ça.
Et toujours pour continuer sur JDK 15, il y a aussi l'équipe d'Azul qui a écrit un article sur le JDK 15 et qui couvre certaines, en tout cas, des nouvelles fonctionnalités. Il y a les seal classes et les records en particulier qui sont pas mal couverts. Donc dans les seals, bon, Marc, je sais pas si on rentre dans le détail, on en a déjà parlé, mais donc les seals classes qui permettent d'avoir un contrôle plus fin sur qui on autorise à implémenter ou non une classe ou une interface. Donc là, on pourra dire public sealed class tartampion permits et le nom des classes qui sont autorisées à étendre cette classe ou cette interface là. Et je crois, alors attends, qu'est-ce qu'ils ont rajouté ou raffiné parce que là, attends, c'est en deuxième preview, c'est les records qui sont juste en seconde preview, donc là c'est la première preview, hein, c'est ça, je sais plus,
je crois, ouais, c'est la première
en
tout cas, c'est un outil qui est un intermédiaire entre le mot-clé final et le fait d'utiliser de mettre les constructeurs en package private, ce qui fait qu'on impose que les sous-classes soient dans le même package. Voilà, c'est un outil un peu plus flexible.
Donc là, c'est plus granulaire, plus flexible en tout cas.
Je crois qu'ils ont rajouté la notion de non-sealed, c'est-à-dire qu'on peut avoir une super classe qui dit voilà, moi je suis scellé et je peux avoir A ou B, mais B peut lui-même se déceler.
Déceler. Mais ce qui est amusant aussi avec ce non-sealed, c'est que c'est le premier, on va dire, mot-clé, entre guillemets, du langage Java, qui contient un tiret. Donc, c'est écrit non-sealed.
Ouais, je crois que c'est not-sealed, d'ailleurs, avec un T.
Là, en tout cas, dans l'article, ils ont mis non-sealed. Ah bah, alors, à moins que ça ait changé ou pas.
Non, non, c'est ma tête. C'est... Pas de souci.
Et aussi, donc, ils parlent des records et ils prennent aussi l'exemple, du coup, vu qu'ils ont couvert dans l'article sealed classes juste avant, c'est l'interface. Juste avant, il montre aussi, par exemple, la combinaison en fait de sealed et des records. Donc, par exemple, d'avoir en fait, par exemple, une interface voiture qui est scellée et qui autorise deux implémentations, la voiture rouge et la voiture bleue. Et la voiture rouge et la voiture bleue qui ont été implémentées sur place, quoi, on va dire, dans la même unité, dans le même fichier. Et c'est des records. Donc, on a public record, red class, record blue class. Donc, on voit que la réflexion de comment différentes fonctionnalités qui sont rajoutées dans Java, dans le langage, interagissent entre elles, et que ça a été bien, bien pensé. Et aussi, du coup, ouais, il parlait, donc après tout un tas de petites améliorations ici ou là du JDK, des classes, des librairies du JDK. Et il y a aussi une petite partie justement sur les classes cachées. Donc si vous voulez creuser un peu plus, vous pourrez en apprendre plus là-dessus.
Et figurez-vous que pendant que l'on s'époumonait à vous expliquer certaines fonctionnalités de Java 15, eh bien, dans notre boîte aux lettres électronique, un crowdcast nous attendait de José justement sur certaines de ces fonctionnalités. Et donc, sans plus attendre, on va laisser la place, plutôt la voix, aux experts.
Salut les cascodeurs, salut à tous. C'est José au bout du fil pour vous parler de deux points particuliers de Java 15, donc qui est sorti récemment. Le premier, c'est que le code source de Java, du JDK, est maintenant hébergé sur GitHub. Alors, il y avait eu une première transition de Mercury à la Git qui a eu lieu il y a quelque temps déjà. Mais là, maintenant, le code source du JDK est géré sur GitHub. Alors, c'est intéressant de lire la JEP qui gère ce truc-là et intéressant de voir un peu quelles sont les raisons de cette migration. Donc dedans, les gens parlent notamment des performances de GitHub qui sont manifestement meilleures que les performances de l'hébergement Mercurial que le JDK se fournissait à lui-même auparavant. Performance à la fois en rapidité, mais aussi en fiabilité, puisque manifestement, le downtime de GitHub est plus performant que le downtime de leur repository précédent. Il y a également dans cette JEP quelques remarques qui sont vraiment intéressantes à lire sur les impacts potentiels qu'une telle migration aurait pu avoir sur le workflow du développement du JDK et la volonté que les gens ont de ne pas précisément dépendre d'outils externes. Ça veut dire qu'en fait, tous les outils de gestion du JDK, le traçage des bugs, le traçage des nouvelles fonctionnalités, etc., n'ont pas été migrés vers GitHub. Ils continuent à utiliser leur propre workflow pour ne pas trop adhérer à GitHub. Et notamment, il y a un nom de domaine, git.openjdk.java.net, qui a été créé, et tous les rapports de bugs, tous les mails, tous les patchs, etc., en fait, référencent ce nom de domaine plutôt que de référencer GitHub. Donc on migre vers GitHub, mais quand même avec un certain nombre de précautions qui font que, si jamais c'est plus possible d'être hébergé sur GitHub, on peut encore changer la base de code de l'OpenJDK. Et puis le deuxième point sur lequel je voulais parler un peu, c'est cette deuxième preview qu'on a sur les Java Records. Et normalement, c'est la deuxième et dernière preview, puisqu'il est prévu aujourd'hui d'avoir les Java Records directement dans le JDK en tant que fonctionnalité de Java, à partir de Java 16, c'est-à-dire en mars prochain. Alors juste quelques éléments sur ce que c'est qu'un record dans Java. L'objet du record, c'est en fait de fournir une abstraction pour transporter des données dans le JDK. Jusqu'à présent, on avait les Java Beans. Maintenant, on a les Java Records. Le format record, c'est à la fois un format de transport de données, un nouveau modèle de classe, puisqu'en fait, un record, ça reste une classe, un peu comme les énums sont des classes, mais aussi une nouvelle syntaxe. C'est-à-dire que, comme pour les énums, créer un record ne passe pas par la déclaration d'un truc qui va s'appeler public class, par exemple. Un record, c'est quelque chose qui va être déclaré avec public record. On a une syntaxe compacte pour définir ce que c'est qu'un record. Et notamment, un record, il est défini sur des composants, des components. L'exemple classique, c'est un record qui s'appellerait point et qui est construit sur deux coordonnées. On va déclarer public record point, donc le nom de ce record, et puis directement, entre parenthèses, int x, int y, qui sont les deux composants de ce record. Et dès l'instant qu'on fait ça, le compilateur va générer en fait une classe avec ce qui s'appelle un constructeur canonique, qui va prendre des valeurs pour ces deux composants et les copier dans les champs internes de la classe. Ces champs internes sont également créés automatiquement par le compilateur, et ils sont créés comme champs internes immutables. Un record, c'est quelque chose qui est immutable. Alors, immutable jusqu'au point où ces champs sont immutables, et les références qu'un record pourrait avoir vers d'autres objets sont immutables. Si jamais un record porte une Java Util Date, ce qui est très certainement une très mauvaise idée, ou une liste, par exemple, cette liste n'est pas immutable si c'est une ArrayList. Ça, le compilateur ne va pas toucher à ça. Et puis dans le record, on va également avoir une nouvelle syntaxe pour des getters. Ce getter, ça va juste être le nom du composant, donc dans notre cas, x ou y, par opposition au getter classique, getx ou gety. Alors le getx ou gety, on peut parfaitement le rajouter dans le corps de déclaration du record, puisqu'on peut en fait rajouter toutes les méthodes que l'on souhaite dans un record. Et puis, cerise sur le gâteau, on aura également la génération des autres méthodes, equals, hashcode et toString. On n'aura pas de méthode finalize, parce que la méthode finalize, elle a été dépréciée, il ne faut plus utiliser de finalize en Java. On peut voir un record comme étant un tuple avec un nom. Là, il y a eu des débats sur ce point, est-ce qu'on a absolument besoin de mettre un nom au tuple en Java ? Et la décision a été prise que oui, la raison étant que Java, en fait, a un système de type dans lequel tous les types portent des noms. On peut parfaitement rajouter du code de validation pour construire un record avec de la validation à l'intérieur d'un constructeur. Alors là, il y a une syntaxe un petit peu particulière, puisque toute la partie canonique du constructeur, c'est-à-dire le fait que le constructeur prend les composants en paramètres et copie les valeurs de ces composants dans ses champs internes, ça, on n'a pas besoin de l'écrire. En revanche, la partie validation, on peut la rajouter. Un record n'a pas le droit d'étendre un autre record ou une autre classe. Ça, c'est pour des raisons de lisibilité, essentiellement. Un record, c'est quelque chose qui est final. Et au niveau du design, on souhaite avoir l'image entière du record quand on lit la déclaration du record avec ses composants. Quand on lit cette déclaration, on a toutes les informations dont on a besoin pour comprendre ce qu'il y a dans un record. Donc ce record ne va pas aller hériter l'état d'une autre classe en étant dans cette classe, par exemple. Le dernier point, c'est un point de sécurité qui porte sur la sérialisation. Alors la sérialisation des bins en Java, c'est quelque chose qui est très décrié et qui pose effectivement des problèmes de sécurité, puisqu'on peut parfaitement construire des bins en Java avec des règles de validation, et puis ensuite sérialiser ces bins dans des fichiers sérialisés. Et à partir de ces fichiers sérialisés, on peut reconstituer ces bins. Le problème, c'est que le mécanisme de désérialisation, il bypass complètement tous les mécanismes standards de construction d'objets en Java. Essentiellement, la désérialisation d'un bin, elle n'appelle aucun constructeur, elle n'appelle aucun getter setter. Et donc, si on a mis des règles de validation à ces endroits-là, ces règles de validation vont être bypassées. Alors, on peut imaginer que si on sérialise des bins qui sont valides, on va pouvoir les désérialiser dans des bins valides. Tout ça, ça va bien fonctionner. Mais il faut quand même se mettre de temps en temps dans l'hypothèse où les fichiers qu'on va désérialiser, ce sont peut-être des fichiers malicieux qui contiennent des informations que des gens mal intentionnés veulent utiliser pour corrompre notre application. Donc il est parfaitement possible de construire de toutes pièces un fichier sérialisé comportant un état invalide par rapport aux règles de validation de ce bin. Dans la mesure où la désérialisation bypasse ces règles de validation, on va se retrouver dans notre application avec un bin corrompu dont l'état ne respectera pas les règles de validation qui ont été écrites dans la classe de ce bin. Avec les records, ce genre de choses ne sera plus possible. Pour construire un record, on passe nécessairement par un constructeur et donc des règles de validation qui se trouveraient dans ce constructeur peuvent empêcher la création de ce record. Ce record, on peut le sérialiser dans un fichier. Ce fichier, ensuite, on peut le désérialiser pour reconstituer le record. Mais le mécanisme de recréation de ce record ne bypasse pas le constructeur. Le constructeur du record va être appelé, et donc les règles de validation vont être exécutées lors de la désérialisation de ce record. Donc ça, c'est un point important qui permet de corriger une faille de sécurité de la désérialisation des bins. On ne peut pas désérialiser un record qui ne respecte pas les règles de validation écrites dans son constructeur. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous, merci aux cascodeurs et à une prochaine fois.
Sinon, qui n'a jamais eu de problème de bug de time zone?
Oh mon Alors, Dieu.
Je ne sais pas pourquoi, mais moi, quand j'étais jeune, plutôt dans ma carrière et dans mes vies passées, on va dire, je ne sais pas pourquoi, c'était un peu toujours moi qui tombais, enfin, ce n'est pas que je tombais sur ces bugs-là, mais dès qu'il y avait un problème, soit de time zone, soit d'encoding, c'est souvent moi qui me l'ai tapé. Je sais pas pourquoi. Et j'aimais bien ça, en fait. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que time zone ou encoding, en fait, le problème qu'on peut avoir, il peut être à plusieurs endroits, plusieurs niveaux. Donc là, on a mis un article qui est intéressant de quelqu'un qui, bon, là, il se focalise vraiment juste sur les time zones. Et qui, en fait, donc les problèmes arrivent à plusieurs niveaux. Ça peut être Imaginons, on a une appli web, ça peut être côté client, JavaScript par exemple, single page app, tout ça, le JavaScript qui est mal utilisé, qui n'utilise ou n'utilise pas les time zones, ou spécifie une time zone ou pas, qui peut être différente de celle du poste client, c'est-à-dire le navigateur web ou je sais pas, un téléphone Android, iOS, ensuite qui va parler à un serveur, le serveur lui, alors, je sais pas, les Linux récents, tout ça, ils sont en général en UTC, mais il peut très bien avoir été configuré avec une autre time zone ou pas. Et ensuite, la base de données aussi, qui peut être sur le même serveur ou sur un autre serveur, peut aussi avoir été configurée comme il faut ou pas. Et donc, ça peut être à plusieurs niveaux.
Ouais, mais et la JVM aussi, d'ailleurs.
Et voilà, il n'y a pas que ça. C'est que donc les time zones, qu'il faut savoir, les fuseaux horaires, pardon, c'est qu'en fait, ils changent de temps en temps. Par exemple, je pense aussi en particulier à ce qui est... Donc, les time zones peuvent changer, mais aussi la gestion des...
DST.
Voilà, des, comment on appelle ça, heures d'été, heures d'hiver. Et en fait, il se peut que, alors dans, je crois que dans l'article, c'était quoi? C'était le Chili ou je sais plus quel pays d'Amérique du Sud, le Chili, pas le Chili con carne, hein, le pays. Il y a certains pays qui sont passés à finalement, on va plus utiliser l'heure d'été, l'heure d'hiver, et puis après, qui repassent à l'heure d'été, l'heure d'hiver. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le JDK, le JRE, en fait, ils intègrent une base de données de toutes ces informations, y compris historiques, de fuseaux horaires et d'heures d'été ou pas. Et ce qui fait que des fois, bah, on va avoir, imaginons, on a une application avec des utilisateurs dans le monde entier qui vont avoir leur propre heure à eux, et on va peut-être vouloir faire des calculs sur les différentes dates qu'on peut avoir dans l'application. Et en fin de compte, peut-être qu'il va y avoir des offsets d'une heure parce que le JDK sur lequel le serveur tourne n'a pas, enfin, c'est une vieille version, il n'a pas la dernière version d'information des fuseaux horaires ou de l'heure d'été et l'heure d'hiver. Donc, ça peut vraiment merder à tout un tas de côtés. Et donc, j'ai trouvé cet article assez intéressant à lire voilà. Et c'est du vécu, j'ai déjà vu des choses comme ça dans mes vies passées.
J'ai encore eu le problème très récemment, donc je confirme que c'est des choses qui arrivent. Qui arrive encore tout le temps, et effectivement. Non, mais c'est infernal. Et ce que tu disais, entre les times, enfin les débuts et les fins, parce que l'heure d'hiver et l'heure d'été, c'est aussi le problème. C'est pas trop, enfin les pays qui les retirent ou qui les rajoutent, ils en ont, il y en a, c'est pas tous les jours, mais les dates de début et de fin des heures d'été et d'hiver, par contre, elles peuvent bouger selon plein de critères au fur et à mesure du temps. Ça, c'est infernal. T'as toujours, on le voit bien, enfin pour tous ceux qui bossent dans des boîtes distribuées, c'est toujours l'enfer en avril, mars avril et puis en octobre novembre, en fonction de quel pays commence son heure d'hiver, ouais. Termine son heure d'hiver à quelle date, enfin, je sais pas, ça va encore arriver là dans quelques semaines, et ça va encore être l'enfer, tout va être dispatché, les heures de réunion dans les calendriers qui sont fixées en fonction de la time zone, de qui a créé l'agenda, enfin bon, c'est que des trucs comme ça. Et sans oublier après les problématiques de formatage et de parsing des dates qui sont liées aussi à tout ça, parce que moi j'ai encore eu des problèmes très récemment sur un collègue qui habite au Canada, qui était en local canadienne, et je sais pas pourquoi on avait des tests, ça passait pas chez lui, il a fallu que je creuse machin, et je sais pas pourquoi, alors je me rappelle plus, je vais certainement redire une bêtise, mais un truc super bête, hein, genre le MON de Monday sur un format full de la date est pas supporté en local canadienne. Voilà, enfin il y a des trucs.
Ah non, parce que c'est LUN.
Justement, non. Et alors, sachant qu'en français ça marche, le MON. Enfin bref, il y a des trucs super bizarres en fonction des locales, etc. Donc ouais, un très bon article en tout cas.
Ok. Dans la base de données, il y a des fois aussi où on n'enregistre pas la time zone.
Oui.
Là, c'est encore, on a implicitement mis une locale qui est implicite dans le code ou dans le codage, et qu'il faut expliciter une fois qu'on est dans des plateformes multi-time zone.
Tout à fait.
Le bordel.
Ouais. Voilà. Sinon, Oracle Developer Live Java. que je n'ai pas du tout regardé.
Ben, en fait, ouais, moi, je les ai pas. Je les ai pas regardés non plus, mais j'en avais sélectionné deux des vidéos. Donc, il y a la keynote et également celle qui va un petit peu plus dans les détails des nouvelles fonctionnalités du langage. Donc, ça recouvre un petit peu, hein, déjà ce qu'on a dit sur les records, les sealed classes, etc. Mais voilà, il y a des exemples de code et tout ça. Donc, si vous préférez regarder une vidéo plutôt que de lire un article, ça vous montrera un petit peu ces fonctionnalités qu'on a évoquées tout à l'heure.
Ouais. Et sinon, il y a un article super de, comme d'hab d'ailleurs.
Ça me donne tout de suite mal à la tête, ces articles.
Non, celui-là, ça va. Donc, de Alexei Shipilev, qui est un développeur OpenJDK.
Ouais.
Chez Red Hat, qui explique, moi, quand quelqu'un me dit, ouais, j'ai ma JVM qui crash quand je fais un GC, ça doit être un bug de garbage collector. En général, sa réponse, c'est, tiens, fais un test avec même test 86.
Vérifie ta mémoire.
Vérifie ta mémoire, parce qu'en général, c'est ça. Et il explique pourquoi, en fait. Et il explique que, voilà, la JVM, par défaut, elle est un peu greedy en mémoire, donc, si on lui dit rien, elle va prendre tout l'espace mémoire. Donc déjà, elle va utiliser l'ensemble de la mémoire, à moins qu'on lui mette des contraintes. Donc évidemment, si on utilise l'ensemble de la mémoire, on a plus de chances de tomber sur l'endroit de la mémoire, la RAM, qui a un problème. Ensuite, de mémoire, il y a... qu'est-ce qu'il disait ? Pardon. Oui, la façon dont les données, les objets sont stockés en mémoire, il y a des métadonnées. En fait, il y a l'objet avec littéralement vos primitives dedans, mais il y a aussi des métadonnées. Est-ce que cet objet a été marqué en sweep, la référence vers un autre objet, etc. Et ces métadonnées, la JVM, elle les protège. Donc, quand elle voit une incohérence, ça fait l'équivalent d'une seg fault, mais une seg fault qui est expliquée en disant la JVM a trouvé une inconsistance dans son modèle. J'arrête pour telle raison. D'accord ? Donc, comme ces métadonnées, elles sont un peu réparties partout et que finalement, en proportion, notamment quand on a des petits objets, ces métadonnées, elles sont assez conséquentes en taille, en proportion, y a finalement, au lieu d'avoir un bug dans un tableau de bytes où bah, y a quelque chose qui a été changé mais vous ne le voyez pas, là, c'est la JVM qui va détecter le problème et s'arrêter tout de suite. Donc, ça, c'est un autre point. Le troisième, c'est que quand on fait justement un garbage collector, il y a des garbage collectors partiels qui n'adressent qu'un ensemble des objets. Et puis, à un moment, on arrive au garbage collector un peu full, qui est celui où, voilà, on fait un gros garbage collector. Et celui-là va aller naviguer toutes ces métadonnées des objets sur l'ensemble de l'espace. Et donc, les chances de trouver le problème mémoire physique que vous avez est un peu exacerbée. Et du coup, ça explique pourquoi il y a ça. Et en plus, la JVM, dans sa façon de dire des erreurs, elle dit pas votre mémoire c'est de la daube. Elle dit voilà, la JVM a trouvé une inconsistance, donc je m'arrête pour éviter des corruptions supplémentaires. Et donc les gens disent oh, bah ça c'est un bug de JVM, mais en fait en vrai c'est un bug de votre mémoire physique. Voilà, donc ça c'était bon, vous pouvez lire, il y a un peu plus d'infos dans l'article, mais qui était très intéressant à ce niveau-là.
Et donc il dit, bah, c'est vrai que moi j'ai testé votre RAM et si vous pouvez dans les serveurs utiliser de la mémoire ECC qui ouais. est plus sûre.
Bah, lui il dit dans les clients en fait aussi.
Même dans les clients.
Mais RAM, bon là, mais,
ouais.
Voilà.
Ça coûte plus cher, monsieur.
Ça coûte plus cher, mais en même temps, il y a un problème. Voilà, il y a Romain Manibuco qui est dans l'écosystème Jakartaï. Il explique comment configurer Java Util Logging avec un formateur sur une seule ligne. D'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est pas le défaut, mais effectivement, par défaut, ouais. c'est sur deux lignes, ce qui fait que c'est un peu pénible à lire déjà en tant qu'humain et puis à parser en tant qu'outil.
Ouais.
Il explique comment on peut faire ça sur une seule ligne.
Surtout ouais. le parsing. Nous, on l'a fait chez Jenkins il n'y a pas si longtemps que ça, et ça fait quelques... Je sais pas, enfin quelques mois quand même au moins, mais pareil, puisqu'on utilisait Jules par défaut dans Jenkins, c'est vrai que c'était insupportable. Moi qui bosse au support, enfin, faire des greppes sur deux lignes, enfin, c'est juste l'enfer avec des after, before, machin. De, non, Donc oui, non, ça c'est un changement à faire effectivement quand on gère de la prod. On veut pas des lignes, enfin on veut pas deux lignes, une avec le timestamp et une avec le contenu, c'est pas possible.
Puis même dans le cloud, nous dans notre outil de logging intégré, c'est pareil. Oui. T'as deux lignes au lieu d'une seule. Donc quand tu veux examiner un log statement, bah t'es un peu, enfin
surtout des fois,
tu peux choisir, tu les veux par ordre. Inversement chronologique ou chronologique, et du coup des fois tu vas voir l'un au-dessus de l'autre ou au-dessus.
Ah ouais, moi les logs je les lis alphabétiquement comme ça.
Ah oui, c'est un challenge. Ah, c'est pas bête. L'ordre lexicographique. Si c'est l'ordre lexicographique, justement, vaut mieux, effectivement, en tout cas, que ce soit sur une seule ligne.
Qui dépend de sa locale, qui est un autre bug d'ailleurs.
Oui. Ouais. C'est clair.
Bon, Groovy.
Ouais,
Grouvi.
La française. Nouvelle orthographe autorisée par le ministère de l'Éducation nationale et l'Académie française. Donc, ouais, il y a un des acteurs qu'on voit souvent là dans notre écosystème, Groovy, qui fait d'ailleurs des super vidéos. Enfin, et d'ailleurs pas que sur Groovy, mais il fait des super vidéos sur YouTube qui sont assez sympas. Là, il a fait un petit sondage de l'écosystème pour voir finalement quels sont les outils, les librairies, les frameworks les plus utilisés dans la communauté. Donc l'outil le plus utilisé, c'est Gradle, donc pour le build. La librairie la plus utilisée, c'est le framework Spock, donc qui est vraiment super pour faire des tests, mais pas que forcément pour des projets en pure Groovy, hein. C'est vraiment top aussi pour les projets en Java. Et le framework web le plus populaire, bah, c'est Grails qui est là quand même depuis plus longtemps dans l'écosystème Groovy, même si Micronautes monte en flèche évidemment. Les autres questions qui avaient été posées, qui étaient intéressantes, c'était comment les gens utilisent Groovy, le langage. Et il y en a beaucoup qui l'utilisent en tant que finalement langage de script pour faire des petits scripts pour plein de choses. Il y en a évidemment qui l'utilisent comme un langage, comme Java, un langage, comment on appelle ça, general purpose, langage général, quoi. Et puis aussi une petite partie pour faire des DSL, domain specific languages, donc tout ce qui est aussi intégration dans des outils comme Jenkins ou autre où on peut faire du Groovy. On retrouve évidemment Groovy pas mal là-dedans, ou par exemple dans Atlassian, il y a aussi des outils qui permettent de scripter la suite Atlassian avec du Groovy. Enfin, on retrouve Groovy intégré dans pas mal de choses, vu qu'on a toujours bossé sur le fait que Groovy soit intégrable, en tout cas facilement, dans les applications Java. Voilà.
Ah là, on va passer aux librairies. JUnit 5.7 est sorti avec un certain nombre de fonctionnalités, notamment un truc qui s'appelle les Isolated Tests. Donc, c'est une nouvelle annotation qui s'appelle Isolated. C'est notamment quand vous faites tourner vos tests en parallèle. Il y a peut-être certains tests qui ne sont pas capables de tourner en parallèle avec d'autres tests. Peut-être qu'ils touchent à une ressource partagée comme une base de données. Et donc, on peut définir que ces tests-là ne doivent pas tourner en parallèle des autres. Donc, c'est une petite sémaphore utile. De choses pour activer ou désactiver des tests en fonction de certaines conditions. Donc, j'ai pas regardé si enable if, disable if, c'est basé sur une méthode qui est exécutée ou sur une espèce d'expression language pour savoir comment on écrit la condition.
Ouais, je sais pas.
Non, j'ai pas vu.
Voilà, il y a après d'autres choses intéressantes, l'intégration avec Flight Recorder. Donc j'imagine qu'ils émettent des événements Flight Recorder. Donc ça c'est à voir, mais faudrait qu'on trouve quelqu'un pour faire une interview sur Flight Recorder, mais ça a l'air au niveau du tracing d'application, Flight Recorder a pas mal d'avantages parce que c'est implémenté au niveau de la JVM avec un coût non visible pour les applications, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres approches plus haut niveau. Et donc, on voit petit à petit Flight Recorder des intégrations de framework qui émettent des événements Flight Recorder, optionnellement évidemment. Donc, ça, c'est intéressant que JUnit se rentre dans cette danse. Voilà, il y a d'autres choses que vous vouliez rajouter sur JUnit 5 ?
Non, il y a beaucoup de features qui étaient en version, comment ils appellent ça,
Preview.
Ouais, preview, c'est ça, qui sont passés en stable en fait. Donc il y a même des trucs, add timeout et je sais plus trop lesquels, je me rappelle plus, j'en ai vu deux trois, mais qui sont utiles tous les jours, hein, on va dire plus ou moins, qui sont passés en version stable. Voilà. Donc ça s'enrichit bien. Moi je trouve que, alors j'utilise pas encore tout le scope, mais j'ai commencé un peu à tester JUnit 5 et j'aime bien franchement les nouvelles API, les nouveaux moyens de faire des tests paramétrés, etc. Enfin c'est vrai que c'est vachement plus complet que ce qu'on avait avant et ça fait oublier TestNG, c'est ça le framework c'était qui, c'était Cédric qui a fait ça?
Oui, Cédric Best.
Cédric Best qui a fait ça. Et c'est vrai que là il y a plus, avant je me rappelle que TestNG avait quand même beaucoup d'avantages à ce niveau-là sur l'expressivité des tests et tout. Là ils ont fait quand même beaucoup de boulot pour les rendre vachement plus lisibles, séparer le nommage des tests par rapport au nommage affiché, etc. Enfin, il y a plein de trucs qui rendent le truc vachement plus agréable. Quand même, après c'est pas comme Spock non plus, c'est loin de Spock. Non mais ça, je connais Spock aussi et j'aime beaucoup Spock aussi, c'est Spock et Spock cadre plus et j'aime bien aussi l'approche de Spock.
C'est son petit côté vulcain.
Ouais c'est ça.
Surtout sinon un petit article sur quelqu'un qui compare Spring Boot à Quarkus, mais pas du point de vue du développeur, disons hype, mais plutôt du quelqu'un qui est dans une entreprise, il fait sa vie, et puis il y a quelqu'un de l'équipe qui dit ouais, pour la nouvelle application, il faudrait qu'on utilise quelque chose d'autre, donc en l'occurrence Quarkus. Donc il fait un chemin sur quelle serait mon approche décisionnelle là-dessus. Il dit Spring Boot, ça offre quand même tout cet écosystème qui existe, on connaît. Là, 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 là. Et puis il dit après l'autre angle, c'est les performances, et notamment la consommation mémoire. Donc il fait un benchmark que je trouvais intéressant parce qu'il il compare donc la JVM, la version native, et puis aussi le mode bloquant classique et le mode avec les stacks web non bloquantes. Voilà, et du coup, il teste Spring et Quarkus dans toutes ces combinaisons-là. Et puis donc, pour le coup, Quarkus, dans son benchmark, donc je n'ai pas vérifié le code, mais se comporte plutôt bien par rapport à Spring. Donc après, il compare même Quarkus à Quarkus pour aller jusqu'au bout de sa logique. Mais après, sa conclusion, c'est qu'au final, les perfs ne sont pas nécessairement que le point à regarder et quand on fait sa décision. Et donc lui, en tant que chef d'équipe, il resterait sur Spring Boot parce que c'est le truc qu'il connaît et qu'il y a l'écosystème qui existe. Après, lui, visiblement, il connaît pas trop. Pour lui, Restizy, c'est un petit framework obscur, ce qui est intéressant. Mais en tout cas, donc il est familier avec cet écosystème et ça a un poids dans la balance. Et donc, en l'occurrence, cette personne-là, c'est marrant parce qu'il fait ça de manière... c'est un peu une histoire. Et donc, la personne qui avait recommandé Quarkus, au final, elle n'est pas contente. Donc, elle fait son CV, puis elle s'en va. Mais donc en tout cas, il y a la partie benchmark que vous pouvez regarder et puis le narratif. Ce qu'on a trouvé intéressant, nous, c'est que c'est plus... la personne qui allait aux conférences, là, on commence à avoir des gens qui sont plutôt dans leur société tranquille, qui n'allument pas la radio, on va dire, et qui commencent à entendre parler et à comparer ces deux technos.
Bon, et vu que tu as ignoré Micronautes, moi, j'ai quand même parlé de la sortie de Micronautes 2.1.
Ouais. Je ne l'ai pas ignoré, c'est lui qui l'a ignoré.
Donc, dans la 2.1, il y a un nouveau plugin Gradle qui facilite le build d'images natives Graal et des containers Docker en couche, et en dessous, ça doit utiliser Jib pour ça. Donc, ça facilite et rend encore plus transparent le fait d'utiliser Graal, parce que c'est toujours pas forcément évident à faire. Le support des fonctions dans Oracle Cloud, donc en plus de, il l'avait rajouté dans Google Cloud, AWS et Azure, donc là il y a aussi les fonctions dans Oracle Cloud. Côté Google, Google Cloud Platform, il y a pour le l'utilitaire, la partie sur le logging de Google Cloud qui s'appelle Stackdriver. Enfin, je crois qu'on n'utilise plus le nom d'ailleurs. Donc, on peut, il y a la configuration automatique en tout cas pour faire du log structuré pour que ça s'affiche bien joliment dans Stackdriver avec les bons niveaux de log, etc., le bon formatage, et en tout cas pas sur deux lignes. Ils ont rajouté le support, ça a été contribué d'ailleurs par quelqu'un de chez Google, le support du messaging façon Micronautes avec Cloud Pub Sub. Et puis j'ai mis un lien aussi avec qui donne le détail de toutes ces nouveautés qui ont été rajoutées.
D'accord. T'es sûr qu'il utilise Jib?
Ouais, je crois bien. Alors attends, faudrait que je recreuse, mais normalement, ouais. Normalement, pour la partie Docker, ouais, pour faire du multicouche, tout ça.
Good. Donc, Quarkus, pour revenir à Quarkus, il y a la version 1.8 qui est sortie. J'ai oublié le lien. Il y a le rajout, il y a certaines personnes qui demandaient de support de plusieurs persistence units, c'est-à-dire dans Hibernate, la JPA, il y a la notion de plusieurs entity managers ou plusieurs session factory avec un ensemble d'entités qui sont distinctes. Donc voilà, ça y est, vous pouvez supporter ça. Donc notamment que si vous voulez lire des trucs d'une base et écrire dans une autre, ça y est, maintenant c'est supporté. Il y a pas mal de travaux autour de des métriques, et notamment il y a l'intégration avec Micrometer, qui est la stack qui est classiquement utilisée d'ailleurs au niveau Spring, donc à opposer à celle qui est basée sur l'aspect de Eclipse Microprofile Metrix. Ouais. Voilà. Et du coup, là maintenant, vous avez le choix là-dessus, notamment sur la façon dont ça sort les informations, et puis sur les backends qui sont supportés, Prometheus, mais aussi d'autres. Voilà, Micrometer a un certain nombre d'avantages. Une intégration avec Jibang. Alors Jibang, c'est Jibang.dev, c'est un petit outillage pour pouvoir exécuter les points Java directement comme un script bash en fait. Et du coup, on définit les dépendances en commentaire au début du document, on définit un certain nombre de choses, la version Java qu'on veut. Et puis après, on peut dire voilà, mon script de conversion .java et l'exécuter. Et ça s'exécute comme un bash ou comme un script Groovy d'ailleurs qui ouais, ferait ça, etc.
Parce que du coup, je retrouve un peu l'inspiration entre guillemets de Groovy avec donc on avait nos annotations at grab pour dire on a besoin de telle dépendance, tout ça, et je trouve ça génial qu'il ait trouvé une manière en tout cas de le faire pour Java. Et ça marche aussi avec les scripts JSH là de JShell aussi. Donc il y a les classes main, les classes Java avec un main et les séances, ouais, les sessions JShell. C'est cool.
Alors après l'exécution du point Java, je crois que ça marche bien sous Linux Unix, et je crois que pour Windows, faut quand même encore faire Jibang run et le fichier point Java.
Ouais.
Je me rappelle plus la raison, mais je crois que ça n'honore pas la première ligne où tu définis l'exécuteur du script.
D'accord.
Voilà, GraalVM 20.2 en support. Pour les gens qui faisaient du Kotlin et du MongoDB, donc là maintenant il y a un support natif de MongoDB pour Kotlin. Et puis dans la version d'avant, je suis pas sûr qu'on en avait parlé, mais le support des REST client, du REST client Elasticsearch, pareil un support Redis en termes de client. Hibernate Anvers, qui est qu'on appelle ça, le auditer tous les changements en fait d'une base de données via Hibernate, et puis le support du driver DB2 qui est arrivé en natif, tout ça.
Et là en natif, voilà. Et en, est-ce que c'est en réactif aussi là, tous ces améliorations là?
DB2, oui, ça doit être en réactif.
Ça me semble bien, ça mérite peut-être d'être souligné. Ouais. Parce que justement, ouais, là quasiment tout
IBM, ouais, qui a bossé avec l'équipe Vertex. Donc en fait, nous on réutilise les travaux qui ont été faits par l'équipe Vertex au niveau des drivers, notamment JDBC réactif, enfin pardon, pas de JDBC, mais des drivers de base de données réactifs. Et donc ça a été fait chez Vertex, et du coup nous on bénéficie de cet effort, enfin nous au sens Quarkus. Ouais, c'est cool. Et pareil, le client Redis, en fait c'est basé sur le client Vertex.
D'accord.
Donc on réutilise ces approches-là. Voilà, on va passer à l'infrastructure. Bon, qui a 40 milliards de dollars là?
Attends, je regarde.
Ma poche.
Bah non. Centimes.
Il me manque quelques centimes. Voilà, bah, c'est dommage parce que tu as raté l'achat de ARM. Ça aurait été cool. Voilà, donc ARM qui appartenait à SoftBank, qui est un,
les bras menton.
Un consortium à ce niveau-là, ouais, japonais, qui voulait se recentrer comme ils font de temps en temps, là, ils se recontractent, expand, etc. Et donc, ils cherchaient un acheteur à ARM, et donc ça a été racheté par Nvidia. Donc Nvidia qui devient un gros truc maintenant, parce que entre l'intelligence artificielle et donc les GPU qui sont pas mal à la cote, plus le rachat de ARM, là ça devient un point intéressant face à Intel et AMD, les autres qu'on connaît en termes de processeurs,
aussi, surtout que ARM ça là. Ouais. Vas-y. Non, j'allais dire aussi, il y a aussi là ces jours-ci, il y a AMD aussi qui a annoncé qu'ils allaient racheter Xilinx, là, qui font aussi des FPGA, des choses comme ça. Donc ça va faire encore des choses. Enfin, il y a beaucoup de
concentration. Je te balance le bus là. C'est quoi FPGA, Guillaume?
Ben, c'est les processeurs configurables pour des tâches bien particulières de mémoire. Mais bon, c'est des circuits logiques programmables, voilà, pour un but bien spécifique. C'est ça, non? C'était un test ou...
Ouais, Field Programmable Gate Array.
Ouais, ben ça, je m'en rappelle.
Voilà, donc et qu'on peut reflasher, en fait. Ouais. Je crois qu'il y a une différence avec les ASICs, mais... Ah oui, le ASICs, il est défini une fois et après, ben voilà, sauf que les FPGA, on peut les reprogrammer durant leur vie, en fait. Ouais. C'est ça, la grosse différence. On avait fait une conversation intéressante avec Quentin quand on était descendu de la JVM jusque tout en bas au niveau du processeur. On était passé par les FPGA justement. D'accord. Donc je vous encourage à retrouver cette interview du passé si quelqu'un peut chercher dans le background de la verse le numéro. Voilà. Sinon,
quelque chose quand même à noter sur ARM, sur l'achat de Nvidia, c'est surtout aussi que ça passe aux États-Unis. C'était une société SoftBank, c'était en Europe, c'était sous le droit européen, je crois que c'est Irlande.
Ah bon, ouais. C'est pas japonais, SoftBank?
Attends, SoftBank. Si, SoftBank, pardon, c'est moi qui dis conneries. Mais donc le problème derrière, c'est que pour tout ce qui est ARM et tout ce qui est chip et tout ça, c'est que derrière, ça va passer sous le droit américain, ce qui pose un certain nombre de soucis pour tous ceux qui utilisent de l'ARM dans plein de domaines, comme l'armée ou des choses comme ça. A priori, ça pose tout un tas de petits soucis à ce niveau-là, de voir ce genre de puce, leur conception surtout, parce qu'après, c'est tout un tas de jeux, parce que ARM ne fait pas les puces, ne fait pas que les puces, mais ils les conçoivent.
Ils font les designs, ouais. Et après, on rachète le design et on fait la puce.
Ouais, c'est ça. Et après, tu les implémentes et tout ça. Et donc, a priori, ça pose aussi pas mal de questions à ce niveau-là sur le fait que ça passe chez les Américains. Voilà. Donc, il y a aussi tout un tas de sujets comme ça.
Puis ton chat, il se gratte les puces aussi.
Donc, plus sérieusement, l'interview avec Quentin Adam, c'est l'épisode 211.
D'accord.
Vous pouvez retourner écouter. Puis celui-là, il est probablement intemporel. Hein. Il date de l'année dernière, mars 2019, à l'époque où le monde était jeune et insouciant. Alors, un retour d'expérience sur Kubernetes. Quelqu'un, ça fait, je crois, 3 ans, je crois, de mémoire, qui sont en prod avec Kubernetes. Et donc... Ils sont contents, ils en utilisent les bénéfices, mais ça a été un chemin un peu compliqué. Enfin, oui, voilà, plus long que ce qu'ils pensaient en tout cas. Voilà, ils parlent notamment de Java, sa consommation mémoire et ses problèmes, notamment historiques, dans la version 8 avant les patchs qui sont arrivés un peu derrière là, sur lesquels Oracle et Red Hat notamment ont travaillé pour améliorer le comportement dans les containers. De comment est-ce qu'on upgrade un Kubernetes sans tout péter? Alors eux, par exemple, ils créent un nouveau Kubernetes et puis ils bougent les workloads. Et pour eux, ça marche plus simplement que d'upgrader Kubernetes. Alors eux, ils l'ont pris à la main, donc c'est-à-dire qu'ils prenaient le Kubernetes upstream et ils le faisaient. C'est là où peut-être la valeur d'un GKE, OpenShift, et peu importe la distribution que vous utilisiez, si sa valeur allait justement vous éviter ce genre de problème, c'est là où ça peut faire une différence. Il expliquait le problème de système qui, quand ils finissent, ils ferment pas bien et qui redémarrent et qui font une vérification d'index, enfin un truc qui peut prendre un peu de temps, que ben la notion de readiness et de liveness probe pouvait un peu rentrer dans les pattes, parce qu'en gros le système serait tué parce qu'il met trop de temps à démarrer, mais il est en train de vérifier l'index et donc ça, ça va être encore pire. Donc là-dessus, visiblement, il y a un nouveau startup probe ou quelque chose comme ça qui est explicitement pour ce genre de choses, où on peut donner un temps de démarrage plus long que la vérification du liveness, qui idéalement est de 1 minute ou 5 minutes ou quelque chose comme ça. Voilà. Et puis son dernier point, c'était les problèmes avec les routeurs plutôt, c'est-à-dire que exposer des connexions entre le monde extérieur et l'intérieur du modèle Kubernetes. Si vous avez qu'un seul nœud central qui fait ça, ben il y a une limite au niveau du kernel, du système d'exploitation, donc du kernel Linux que vous utilisez. Donc des choses à anticiper un petit peu à ce niveau-là aussi. Voilà. Vous avez d'autres points là ? Attendez là-dessus. Je crois que j'ai fait le tour.
Du tout. Moi, je fais du serverless parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec la RDS.
C'est pour ça. Ah ouais, petit joueur, petit joueur. pas grand chose à rajouter. Enfin, mais c'est exactement mon expérience aussi sur la complexité de certains sujets autour de la JVM. C'est loin d'être simple quand on débute. Et puis, Kubernetes lui-même n'est pas simple. Kubernetes et la JVM, c'est encore moins simple. Après, j'avoue que quand on s'y habitue, ça a des avantages. C'est quand même très puissant. Mais voilà, faut faire des efforts, faut tuner, faut vraiment que les applis soient faites pour. Et voilà. Enfin, je sais que nous, on le fait pour nos clients, hein, puisque CloudBees CI, qui est Jenkins, ça tourne sur du Kubernetes. Donc, faire tourner du Jenkins, qui lui est très file system, qui est très JVM, très monolithique, tout ça, c'était beaucoup beaucoup de challenges qu'il a fallu relever pour rendre ça compatible avec ce genre d'environnement. Et maintenant, ça marche plutôt bien. Franchement, je suis assez content. Et puis pareil pour nos applis internes, on bosse avec les ops via Kubernetes. Et c'est vrai que je trouve qu'on a vachement développé tout l'aspect DevOps. C'est quand même vachement simplifié quand on a un langage commun entre les devs et les ops. Ce langage Kubernetes. C'est quand même vachement plus simple.
Voilà, sinon il y a...
Après les puces, Project Natick.
Oui, après les puces, du coup, il y a les puces d'eau.
Voilà, les Natick. C'est le data center mis sous l'eau en 2018 par Microsoft. 864 serveurs, 27,6 petabytes de stockage, 117 pieds au fond de l'océan, en Écosse. Apparemment, c'est un succès.
Et donc, ils estimaient... Et donc, ce qui est intéressant en termes de succès, c'est qu'ils disent... est-ce que le matériel va durer aussi longtemps ? Parce qu'une fois que tu l'as mis en bas, tu ne redescends pas pour aller changer un disque dur. Et puis, combien ça coûte en énergie, etc. Quel est le taux de panne ? Et donc, ils ont jusqu'à des taux de 3 fois moins importants de panne, en fait, parce qu'ils ont moins de variations de température, puisqu'on est dans un endroit très... Enfin, j'imagine que le fond de l'eau, il ne bouge pas
plus
beaucoup
stable,
en termes de température, et puis ils n'ont pas eu de fuite. et donc, ils sont contents. Ils en avaient déjà fait un... plus petit, moins longtemps, et là ils en sont donc 2018-2020, donc 2 à 3 ans. Ça n'intéresse que 10 compagnies dans le monde, mais voilà, c'était une expérience intéressante.
Il y a peut-être aussi, pour les prochains films d'Avatar, apparemment ça va être surtout sous l'eau, alors peut-être que c'est pour ça aussi. C'est peut-être intéressant.
Data center, pour calculer les images.
Et sinon, il y a Google qui a annoncé là, il y a quelques semaines être neutre en carbone et a même carrément racheté sa dette carbone depuis sa création. Donc, non seulement ce qu'on fait, produit, utilise...
Je vous donne le premier résultat.
D'accord, c'est OK Google qui se réveille sur mon téléphone. En direct, je ne sais pas pourquoi. Mais
laisse-la parler, laisse la dame parler.
Ta gueule. Ça rime avec Google.
Tu dis n'importe quoi.
Alors attends, il y a le téléphone, après il y a le Google Home. Allez, c'est parti. Ouais, OK.
Bon, dis Siri.
Bref. C'est bon, vous calmez les Google là-bas.
Et donc, non, mais tu vois, ils sont contents, tu vois, tu leur dis, ils ont réussi à écrémer la dette carbone, et ben voilà, tu vois, ça, ils veulent, enfin bon, ils ont leur vie à eux, quoi. Et donc non seulement la consommation actuelle, mais également toute la consommation passée. Donc il y avait trois aspects importants. Donc il y avait le fait que, donc au départ, depuis 2007 en tout cas, on rachetait autant d'énergie renouvelable pour compenser l'énergie carbonée qui avait été utilisée. Là, depuis 2017 par contre, Google rachetait aussi même... ou produisait par avance l'énergie renouvelable avant même d'être consommée, donc par rapport à l'année N-1, on va dire. Et puis là, l'objectif pour 2030, donc, bon, on est neutre, ok, bon, il y a quand même des systèmes de compensation, on a racheté le passif, etc. Mais là, l'objectif, ce serait même... en 2030, en tout cas, donc d'ici 10 ans, arriver à être, de consommer vraiment de l'énergie sans carbone du tout. Ce qui n'est pas évident, parce que si on regarde dans la globalité d'une entreprise, enfin, il y a des choses, moi, je ne vois pas comment on peut les supprimer complètement. Hein. Je veux dire, les employés, ils vont bien prendre, je ne sais pas, les transports en commun pour aller au bureau de Google. Bon, en ce moment, bizarrement, je ne prends pas les transports en commun. D'accord. Donc, je ne sais pas si le Covid a un rôle à jouer là-dedans, mais en tout cas...
ça inclut la consommation des employés ?
Je sais pas, faudrait regarder de plus près parce que je pense qu'il y a certaines choses qu'on peut pas éliminer complètement.
C'est au lieu de dire, en fait, mon consommation, elle vient de la centrale à charbon, mais je compense avec autre chose. Là, c'est, mon objectif, c'est que mon fournisseur fasse de l'énergie carbonée.
Mais ouais. Donc en tout cas, tu vois, c'est par progressivement. C'est-à-dire la première chose, c'était quand même les data centers. Évidemment, la deuxième chose, c'est quand même tous les campus, donc tous les bureaux de Google, ils souhaitent arriver à faire qu'ils soient décarbonés aussi, et ça, c'est pas évident. Et après, est-ce qu'ils vont arriver, enfin, je pense qu'on peut pas être 100% réellement, ou alors à moins d'obliger les employés à aller au bureau avec, par exemple, une trottinette électrique, mais qui aurait été rechargée qu'avec l'énergie solaire, ou je sais pas quoi. Enfin, t'imagines, là, si tu rentres vraiment dans tous les détails, enfin, mais en tout cas, l'objectif, c'est de s'en approcher des 100% d'énergie non carbonée, quoi.
Ouais. C'est balayé. Et donc, le point numéro 4, c'est que les employés ne soient décharbonés aussi, donc, à la mine, ils vont joyeux et contents.
Voilà. C'est ça. Donc, en tout cas, je suis fier au moins de voir que ma boîte est en avance là-dessus par rapport à tous les autres acteurs, quoi. Je suis content.
Donc là, il nous manque le contrepoint de Audrey. Là, on sent bien le poids qui est là, mais voilà, c'est bien de voir des communications assez haut niveau là et de voilà que les enfin qui sont plus que des communications. En tout cas. Mm-hmm. Voilà. Sinon, on va parler des données. Il y a CrunchyDB qui offre en gros du PostgreSQL as a service. Qui vient de fournir un PostgreSQL as a service qui est cross-cloud. Donc, au lieu de dire j'utilise par exemple sur Amazon RDS et je reste donc du coup sur Amazon, la CrunchyDB vous permet de dire j'ai ma base de données qui est sur plusieurs clouds et puis je peux passer de l'un à l'autre en termes de besoins. Et du coup, vous avez le service PostgreSQL, mais vous abstrayez un peu on parle beaucoup de data gravity par exemple, chez les hyperscalers, ce qu'on appelle, donc Amazon, Google, Alibaba, Microsoft, etc. IBM peut-être, si on les met dans cette catégorie-là. Voilà, donc Crunchy, ils arrivent avec un service multi-cloud, donc ça c'est un
service. Pour l'instant, c'est Azure et AWS, il n'y a pas non plus encore tous les clouds.
Ouais. Bon, d'accord. Ah, vous n'êtes pas dedans
Non, tu vois. Bah, je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien. C'est eux qui font cette surcouche, donc c'est peut-être à eux de le faire.
Ah, d'accord, je croyais qu'il y avait Google aussi, mais bon.
Non.
Autant pour moi.
C'est Bicloud. C'est Bicloud.
C'est Bicloud. Outillage, GitHub sort la version 1.0 de son outil de ligne de commande. Est-ce que vous l'utilisez, vous?
Ben non, et en fait, à chaque fois, je regarde les
tous les jours.
Ah, c'est vrai? Tous les jours?
Ouais. Ah, c'est cool. Enfin, essentiellement pour le workflow de gestion des pull requests.
Avec les pull requests, c'est ce que
j'ai dit. Ouais, les pull requests, GHPR, checkout, le numéro, etc. Enfin, franchement, sur la partie gestion des pull requests, c'est nickel. Avant, j'utilisais l'ancien, Git. Ouais, Hub, c'est ça, Hub, qui faisait plus ou moins la même chose, mais non, là, il est très bien, c'est juste une question d'habitude, mais après, ouais, ça va beaucoup plus vite pour cloner, etc.
Tu fais quoi, y compris la liste des issues ouvertes, ou...
T'as accès à tout, en fait, toute l'API reste de GitHub, je crois. Donc,
Parce que moi, si je fais la liste des issues ouvertes sur...
On n'utilise pas trop les issues, donc je sais pas.
Parce que je pensais que ça couvrait la totalité du coup du spectre de l'API REST, non ? C'est une bêtise ?
Alors peut-être pas tout, mais en tout cas ils ont GitHub API qui te permet après d'aller.
Ouais. Parce que tu vois, tu as quand même là GH issue list. Tu peux voir, il te montre les trois issues ouvertes.
Oui, mais je me demandais si les gens utilisaient ça concrètement, tu vois.
Ah d'accord. Ok.
Mais ils sont vraiment focusés sur ce qui est utile.
Les merger, tout ça, c'est ça ?
Oui. Tu peux. Merger, je ne me rappelle plus. Mais oui, après, tu peux les check-outer, tu peux repousser dessus, tu peux faire tout le cycle de vie de ton projet. Les merger, je ne sais pas, généralement, je merge la branche directement dans le truc. Donc, je ne sais pas s'il y a un intérêt. Ça dépend comment tu veux faire ton merge. Mais bon, généralement, je fais mon merge sur mon commit, sur mon git local. Donc. Mais voilà, tu peux même, je crois, tu peux commenter, tu peux faire pas mal de choses. Mais bon, enfin, moi, j'utilise sur le workflow classique, checkout d'une branche depuis la pull request et tout ça. Voilà. Plutôt que d'aller chercher c'est quoi l'origine de la pull request, comment que je checkout, machin, etc. Bon, ça, c'est super pénible. Là, au moins, tu prends la PR 320, checkout PR 320, tu l'as. Voilà.
Ouais. Alors, on va passer à l'architecture, oui. J'allais dire architecture. L'architecture. Notamment, il y a un vieux soi-disant mémo de Jeff Bezos sur la transformation de Amazon, notamment AWS, en une plateforme, en fait. Ça résonnait parce que je crois que la dernière fois, on avait discuté de Google et puis il y avait quelqu'un qui était énervé parce que Google, il dépréciait un peu vite les API pour son goût et il disait Google, vous comprenez pas la notion de plateforme. Et du coup, Amazon, ça résonnait parce que ça explique ce truc-là. Il dit, dans le mémo, le pseudo-mémo, c'est toutes les équipes exposeront leurs données et leurs fonctionnalités via des API de service. La communication entre équipes se fera à travers ces interfaces de service. Il n'y aura pas d'autres formes de communication interprocess, pas de lien direct, pas de lecture de la base la base de données d'une autre équipe, pas de mémoire partagée, pas de backdoor, etc. Peu importe la technologie des services, ça peut être du HTTP, CORBA, PubSub, etc. Toutes les interfaces, sans exception, doivent être designées pour être utilisables par le public. Donc, ça ne veut pas dire qu'on l'exposera, mais il faut qu'elle soit utilisable par le public, pas d'exception. Et puis, qui suit pas ces directives sera viré. Et puis après, merci, passez une bonne journée. Et donc, je vous encourage à lire le mémo, parce qu'il est rigolo, et il dit, bon, pour ceux qui venaient de chez Amazon, vous savez bien que le dernier point, merci et passez une bonne journée, et c'est une blague, parce que Jeff Bezos a fait toute votre journée. Mais en tout cas, il explique tout un contexte derrière, mais pour comment ça a créé la notion de plateforme, c'est-à-dire que on expose une API et par-dessus une interface va... on expose une API et par-dessus d'autres API vont pouvoir se construire qui ont ce contrat-là et par-dessus des interfaces utilisateurs vont pouvoir s'exprimer d'une manière ou d'une autre, mais cette API est potentiellement publique et exposable, ce qui pose plein de questions, de rate limiting et de choses comme ça. Et du coup, on commence à traiter tout le monde... on anticipe ces problèmes-là de communication, etc. Donc, il explique ce chemin pas forcément facile de plateformisation, en fait, d'un truc qui était un vendeur sur Internet. Donc, c'est intéressant. Bon, il date de longtemps parce que le gars, je crois qu'il... Il faisait ça en 2011. Il expliquait ça en 2011 et ça faisait déjà 6 ans et demi que le mémo avait été soi-disant lancé. Donc voilà. Voilà, si vous avez un peu de temps, c'est un truc intéressant à lire là-dessus. Et puis sinon, on va parler réactif.
Oui, il y a Jonas Bonner qui a annoncé les 8 principes réactifs. Alors, vu qu'ils sont en anglais, être responsif, du coup, responsif, c'est un peu du franglais. Donc, toujours répondre. Non, là, c'est pas responsable. Donc, toujours répondre dans un temps correct, on va dire. Donc, même si on a des choses lourdes et complexes et qui prennent du temps à faire, on peut, comme on dit, acknowledger. Alors, attends, on peut répondre que oui, c'est bon, on a bien reçu la demande, en tout cas. Accepter l'incertitude, donc c'est de se rendre compte que c'est un peu, on fait toujours tout sur un château branlant et qu'il faut se rendre
accepter
compte.
Accepter que les systèmes distribués, c'est pas. Enfin, il n'y a pas de garantie et que.
Pas de garantie, principe. Etc. Et même en allant plus loin, c'est le troisième principe aussi, embrasser l'échec, que les choses vont foirer forcément. Donc, je ne sais pas, que ce soit matériel, un disque dur qui tombe en rade ou un service dont on dépend qui tombe en rade, etc. Faire en sorte, comment on pourrait dire ça, asserter l'autonomie,
vérifier
ouais, l'autonomie, en tout cas que les différents composants qu'on peut avoir qui interagissent entre eux ou indépendamment ou collaborativement, qu'on sache bien comment ils fonctionnent les uns par rapport aux autres.
Voilà, notamment s'il y en a un qui est pas dispo, quel est le comportement de celui qui fait l'appel, voilà, donc penser à ce genre de choses.
Ouais, quels sont les différents cas, enfin, pas que cas aux limites d'ailleurs, mais enfin, c'est les différents cas qui peuvent se présenter. Taylor Consistency.
Tailler la conséquence.
Tailler, je sais pas comment le dire en français. En plus, tu vois, dans les notes, je les ai mis en anglais, je me suis dit, bon, alors attends, à traduire, ça va être chiant, mais du coup, c'est pire de devoir le faire. C'est pire que j'aurais dû le faire en amont plutôt que de me dire je vais le faire en live pendant l'épisode. Le niveau de consistance, le faire par
le
composant, le réadapter, donc pour balancer ou contrebalancer la disponibilité et la performance. Donc ça, c'est un peu comme si on avait des petits boutons de réglage à régler aux petits oignons en fonction des besoins.
Ouais, je pensais plutôt que ton espace transactionnel va être plutôt au niveau de composants plutôt qu'un appel de l'utilisateur qui va appeler 50 composants. C'est ça que ça veut dire.
Ouais, enfin moi je le vois aussi dans le sens où tu peux vouloir, tu peux avoir besoin que telle chose réponde très très vite, mais du coup tu sais que si tu veux que ça réponde vite, t'as aussi éventuellement d'autres inconvénients ou vice versa, être sûr que la consistance transactionnelle au travers de tes composants soit plus grande, mais du coup tu t'attends pas à ce que t'aies la même performance par exemple. Donc pour moi c'est aussi balancer l'un et l'autre quoi. Découpler le temps, donc pour éviter de faire plus d'asynchrone, en tout cas pour éviter les problèmes de coordination et d'attente d'un process qui attend un autre. Donc essayer de découpler au maximum les choses. Donc découpler en temps, mais découpler en espace aussi. Alors celui-là, je l'ai moins bien capté sur la flexibilité du réseau.
Ça veut dire que on sait qu'on a un service, on ne sait pas forcément qui tourne sur telle machine physiquement, et donc il va peut-être bouger. Mais ouais. Nous, on appelle, voilà, on a le DNS
ouais,
en gros qui est là pour nous apprendre.
Ouais. Du coup, c'est ça, ouais, découplement de l'espace et de gérer la dynamique. donc toujours s'adapter en fonction de la demande et des ressources. Donc être prêt à juguler ça, parce que forcément dans un système complexe. Des fois, il peut très bien y avoir beaucoup plus de demandes ou beaucoup moins de demandes. Donc, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a des systèmes serverless et autres qui montent, qui auto-scale, etc. Mais voilà, c'est être capable de gérer la dynamique qui peut être changeante par rapport à la charge qu'on peut recevoir.
Et donc, en fait, c'est en complément de tout, parce qu'il y avait le Reactive Manifesto, donc il y avait les, donc ça, c'est les principes réactifs, mais il y avait aussi les patterns réactifs. Il y a d'autres choses hein, qui sont dans la Reactive Foundations qu'on peut relire. Donc, c'est une sorte de complément à tout ce qui a été dit quand même sur le thème de la réactivité, on va dire. Voilà.
OK. Alors, on va passer aux méthodologies. Et Jonas Bonheur vous annonce les 8 principes pour être réactif. Parce que j'étais en train de les regarder. Et en fait, pour moi, ils résonnent entièrement, même dans notre travail entre équipes. En fait.
Ouais.
Est-ce que je reste réactif par rapport aux demandes sans nécessairement dire je fais tout tout de suite. Voilà, accepter que bah, y a des choses qui pourront pas être faites. Donner de l'autonomie à des équipes pour qu'elles puissent avancer sans être bloquées par d'autres, etc. Découper le temps, découper l'espace. Voilà, tout ça, ça résonne un petit peu pour des gestions d'équipe. Donc, je vous laisse ça. Ça reste un exercice pour l'auditeur, mais ça résonne un peu. Et puis la deuxième, c'est Red Hat, en fait, un guide pour les Red Hatters sur comment contribuer à l'open source. Donc, ça explique notre approche. Et c'est un guide qu'on a fait, qui était un petit peu informel, en fait, au sein de Red Hat. Et puis, quand IBM nous a racheté, ils nous ont dit, mais comment vous faites? Et donc, on a formalisé ça. Et puis après, on s'est dit, mais c'est débile de le garder. Donc, on va l'ouvrir. Et donc, c'est devenu un site web qui est disponible pour tout le monde. Et c'est les mêmes qu'on a en interne. Et vous pouvez lire ses recommandations. Donc, ça dit, voilà, nous, on fait le upstream first. C'est-à-dire que quand on veut corriger quelque chose ou améliorer un produit, on va d'abord le mettre dans la communauté upstream, qu'elle soit contrôlée par Red Hat ou que Red Hat soit juste un participant. Et après, ça descend dans le produit. Voilà les licences qu'on a tendance à utiliser, pourquoi on choisit l'une versus une autre. Voilà, il y a tout un ensemble d'éléments qui sont intéressants. Donc, si vous dites, voilà, j'aimerais mettre en place un peu une approche de participation à l'open source dans ma boîte, ou alors c'est en train d'être fait, vous pouvez voir, alors peut-être pas vous inspirer à 100%, parce que nous, on est évidemment, on vit dedans, mais ça peut être une inspiration intéressante. Voilà, et puis la sécurité, on avait vu, mais en fait, comment il s'appelle, Arnaud nous a dit, non, mais on fait ça tous les 2 mois, ça arrive avec 5000 failles de fixe de sécurité.
Non, mais en fait, oui, c'est ça, c'est je sais plus l'un de vous qui avait mis sur les notes une des dernières releases de sécurité de Jenkins, et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte obligatoirement quand on n'est pas dans le projet et quand on n'est pas un utilisateur régulier ou administrateur surtout régulier de Jenkins, mais après j'imagine que c'est un peu la même chose hein, dans tous les projets open source, et on a une démarche où effectivement on livre des fixes de sécurité une à deux fois par mois en moyenne. Alors faut bien voir hein, c'est toujours le même problème, Jenkins c'est un cœur, mais c'est aussi je vais dire des bêtises parce que je pense que c'est encore grossi, mais on était à plus de 2000 plugin, je pense, je ne me rappelle plus exactement.
Sacré bordel.
Oui, donc, bah voilà, c'est
très riche.
C'est très riche, et donc dans cette richesse, bah, y a des risques. Hein, y a des risques de est-ce que les plugins sont maintenus, est-ce qu'ils suivent les dernières recommandations, est-ce qu'ils sont mis à jour, les librairies qu'ils utilisent, enfin, parce qu'après, c'est toujours la cascade, hein, c'est toujours le problème qu'il n'y a pas que le logiciel lui-même, mais de tout ce que l'on dépend. C'est très simple de mettre des dépendances dans les projets. C'est pas toujours évident de les maintenir à jour et d'être sûr qu'on utilise toujours des versions sécures. Voilà. Donc, dans le projet de Jenkins, effectivement, nous, on a une équipe, hein, sécurité, dédiée avec un board, etc., avec une équipe qui gère ça au quotidien côté open source et, bah, côté CloudBees, nous, on le fait aussi côté produit. Et donc, on délivre deux fois par mois, ça dépend des mois, des releases, soit des plugins, c'est des plugins qu'on met à jour avec des bugs fixes. Alors des fois, si les plugins par contre sont pas maintenus, qu'il n'y a plus de mainteneur actif, etc., alors on annonce, on prend la décision au bout d'un certain temps d'annoncer publiquement par contre les failles de sécurité, de manière à ce que l'utilisateur soit au courant, parce que c'est quand ça arrive dans le backlog, donc on a un système de backlog privé des issues de sécurité comme tout projet et tout produit, obligatoirement si vous gardez en secret vos issues de sécurité, il y a un jour ou l'autre quelqu'un va s'en rendre compte, et ce quelqu'un va se mettre à l'exploiter d'une manière malveillante, et il va pouvoir pouvoir prendre, elle va pouvoir surprendre l'utilisateur. Donc, ce qu'on fait, c'est que nous, on fait du grooming de ce backlog-là. On voit ce qu'on peut fixer, on voit ce que la communauté peut fixer. On fait donc des releases une, deux fois par mois. Et ce que l'on peut pas fixer, ce que l'on voit qu'il y a pas de, qu'il n'y aura pas de fixe parce que le plugin, ben, on les annonce. Voilà. Donc, on les annonce. Et donc, c'est comme ça qu'on fait nos security releases tous les mois ou deux fois par mois pour dire, ben voilà, tel plugin a été fixé. Alors, des fois, c'est le cœur. Hein, ça peut être Jenkins cœur. Et dans ce cas, il faut upgrader le cœur, le serveur Jenkins lui-même et pas que les plugins. Voilà. Donc, c'est ça la démarche. Donc, c'est pour ça que ça m'avait fait sourire quand vous m'aviez mis cette note-là. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui arrive à peu près une à deux fois par mois. Mais je pense que ça doit être la même chose chez vous. Enfin, toi, Emmanuel, j'imagine que vous avez le même genre de procédé sur les projets Red Hat. Enfin, c'est
des démarches. Bah, nous, on a moins de CVE, mais. on n'a pas de patch Tuesday, on n'a pas d'approche genre la patch Tuesday, parce que là, ce que tu me rappelles, c'est un petit peu un mode un peu à la patch Tuesday, ouais, où c'est quand même assez systématique tous les mois, machin. Nous, c'est ça arrive, on en a et on les release en fonction des disclosures, etc. C'est souvent de toute façon des choses qui sont agrégées de d'autres, donc il y a une coordination avec d'autres communautés. Voilà. Mais effectivement, on a une équipe dédiée parce que c'est un métier très spécifique. Enfin, plutôt avec des règles où il vaut mieux les exercer tous les jours pour éviter de faire des erreurs, avec des temps particuliers. Quand c'est un zéro day, il faut se dépêcher. Quand c'est quand il y a un embargo, il y a plus de temps, il faut faire attention et surtout éviter que ça leak. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses.
Je me rappellerai toujours d'un zéro day qui était arrivé. C'était, je crois, c'était sur Noël, sur le week-end de Noël. Il y a 2-3 ans. Où effectivement, on nous avait mis dans les dents un zero day sur Jenkins le cœur en plus. Et donc, ça avait été divulgué, je ne me rappelle plus quelle faille c'était. Ça avait été divulgué au public juste avant Noël. On était tous verts. Ouais. Mais bon, ça arrive, c'est le jeu.
Et voilà. Joyeux Noël.
Ouais, joyeux Noël, vous allez bosser les mecs. Ah bah ouais, là, on n'a pas le choix. Bon.
Mais c'est cadeau.
Ouais, c'est cadeau.
Alors, on va passer à la section loi, société, organisation. déjà, il y a Oktoberfest, je sais pas si vous savez, mais c'est l'idée de contribuer à l'open source en octobre. Et Digital Ocean qui sponsor, je sais pas si c'est le seul sponsor ou si c'est un peu plus générique
que ça, mais. Qui l'ont créé, en fait.
C'est eux qui ont lancé le truc, en tout cas. Je sais pas si c'est le seul, mais.
C'est eux qui l'ont lancé.
Bref, en tout cas, cette année, les gens sont un peu énervés. Genre, ça fait mal à l'open source. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des contributions à 2 balles qui sont,
infernal.
Improductives et qui font perdre beaucoup de temps aux contributeurs qui, bon, idéalement, s'ils sont obligés de faire de la gestion de maternelle, ça prend du temps, et donc faut que la contribution elle ait une valeur quand même, pas juste tiens, je t'ai transformé tous tes espaces en tabulation, voilà, ce genre de choses.
C'était un peu
et
ça.
Et encore celle-là, elle serait un peu avancée, mais visiblement il y en a qui étaient vraiment une ligne, genre. Et donc ça a créé tout un pataquès. Moi, je vous avoue que je l'ai pas vu, mais vous, toi, tu l'as vu,
c'est ça? Open source manuel, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible.
Je sais plus d'open source là, c'est ça. Bon, on en a pas vu sur lescascodeurs.com contributions.
Ah ouais, on attend, on aimerait bien des refontes, attend, ouais. Etc. Mais
ouais.
Mais c'est vrai que moi,
d'ailleurs, si quelqu'un est intéressé à migrer, parce qu'aujourd'hui on est sur Ostruct, mais qui est vraiment plus maintenu, et donc si quelqu'un est intéressé à migrer sur Jekyll ou Hugo, mais avec les fonctionnalités qu'on a, ça nous intéresse. Mm-hmm. Contactez-nous. Voilà, donc quelqu'un veut expliquer, résumer un peu rapide?
Ouais, non, bah c'était ça. Enfin, moi je sais que j'avais déjà participé. C'était quasiment au tout début d'Oktoberfest, et en fait, moi j'avais commité des petites choses sur des repos déjà auxquels j'avais déjà accès. Et en fait, j'avais eu mon t-shirt, alors que finalement c'était pas non plus des contributions de ouf que j'avais faites à mes propres repos. Enfin, ou un petit bug groovy corrigé ou un truc comme ça que je savais qu'était facile, donc et j'étais content d'avoir reçu mon t-shirt. Et c'est vrai que j'avais pas pensé au fait qu'il y en a qui aillent vraiment plus loin que ça, et il y a même un YouTuber qui avait 600 000 followers qui a fait une vidéo pour montrer comment faire en fait le processus. D'après lui, c'était pas pour dire, regardez, faites une contribution de merde pour obtenir votre t-shirt, mais dans sa vidéo, pour montrer comment le
comment contribuer à l'open source, c'était facile. Il a fait des commits de merde, des pull requests de merde. Et du coup, bah, il y a 600 000 personnes qui ont vu ça et qui se sont dit, ah bah tiens, bah, je vais faire pareil, je vais avoir mon t-shirt gratuitement.
Voilà, sinon, rapidement, il y a donc l'application Stop COVID qui est renommée Alerte COVID.
Ah, ça, c'est, on sait qu'on peut pas le stopper, COVID. Alors on fait
voilà,
juste,
donc maintenant, on va juste alerter, c'est à peu près ça. Donc oui, bon, après l'échec criant de la première version Stop COVID, ils ont décidé de ne rien changer et juste de la renommer pour essayer de la revendre et de refaire de l'éducation du citoyen, puisque bah, justement, on est bête, on n'a pas compris à quoi ça sert. Voilà, donc ils vont faire une nouvelle version.
Hein. Les contact lists des bars et des choses comme ça.
Le seul truc qu'ils vont faire, c'est effectivement, ils vont essayer d'améliorer pour la détection dans les restaurants, quoi, bars, etc., pour descendre le temps de contact, le passer de 15 minutes à 5 minutes, de manière à ce que tu reçoives une notification. Donc, si tu étais 5 minutes avec quelqu'un de malade et non plus 15 minutes avec quelqu'un de malade, voilà. Donc, il y aura peut-être plus de notifications qu'avant, puisque je vous rappelle qu'au mois d'août, ils avaient noté 72 notifications depuis le lancement de l'appli. Voilà. Donc voilà. Donc, ils ont décidé de continuer sur ce chemin de cette appli qui n'est pas un franc succès et pour essayer aussi de pallier les autres problèmes de privacy qui se passent derrière le fait de laisser ses coordonnées aux établissements, puisque dans les zones rouge et carotte, je ne sais plus quelle couleur maintenant. Ceux qui veulent aller au restaurant.
Je crois que Rouge Écarlate, c'est Vigipirate.
Je ne me rappelle plus où c'est. Bon, ça change de couleur. Mais voilà, il faut laisser ses coordonnées. Donc, ils essayent un peu de pallier ce truc-là parce que bon, ce n'est pas non plus top de laisser ses coordonnées à n'importe quel établissement, n'importe où, à n'importe qui, sachant les données qui vont être traitées derrière. D'ailleurs, il y a déjà eu des problèmes relevés dans d'autres États, en Allemagne, en Angleterre, qui font déjà ce genre de truc. Et il y a eu, bien sûr, des abus de revendre des données ou de harcèlement, etc., etc. Merci beaucoup, voilà. Donc, longue vie à Alerte COVID qui va remplacer Stop COVID.
Ouais. Alors, moi, j'ai un outil de l'épisode. J'ai envoyé sur Twitter, j'avais posé la question, est-ce que je prends un deuxième écran, etc. Parce que maintenant qu'on est tout le temps à la maison, qu'on est en conférence assez souvent, il n'y a pas assez d'espace, on est obligé de regarder la vidéo et puis regarder aussi un autre document et machin. Et du coup, moi, j'ai pas mal réfléchi. Au final, je suis passé à un écran 49 pouces, 32 neuvième. Oh. Donc, c'est le truc énorme, genre ça fait un peu le panneau de contrôle de l'entreprise dans Star Trek, voilà. Mais c'est assez agréable et du coup, il faut un gestionnaire de fenêtrage à peu près correct. Moi, sous Mac, maintenant, en ce moment-là, j'utilise Rectangle. J'utilisais Size Up avant, sous les recommandations d'Antonio. Maintenant, j'utilise Rectangle parce qu'il gère un peu plus de découpage, en fait. Parce que là, c'est pas juste en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite, parce que vous imaginez bien que c'est l'équivalent de deux écrans 27 pouces, mais scindés en un seul écran. Donc, voilà. Et puis, on peut aussi avoir deux ordinateurs et afficher les deux écrans, un à gauche, un à droite. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses que j'ai pas encore explorées. Ouais, c'est pas mal, ça. Dans mon cas, les gens me recommandaient beaucoup de passer à 120 Hz plutôt que 60. Alors, il y a des débats sur on le voit, on le voit pas. Voilà, il y a LG qui en fait des pas mal. Moi, j'ai pris le Samsung 49 CRG9 ou 90 plutôt, CRG90. Écoutez, j'en suis content. Ça me permet de résoudre mon problème, de pouvoir voir plusieurs trucs en même temps sans avoir à faire des écrans virtuels ou tabuler. Voilà. Donc ça, perso, j'en suis content. Après, c'est toujours assez personnel, ces choses-là. Rubrique débutant, on l'a fait du coup ou on la saute là?
Juste vite fait, on peut juste dire qu'il y a un article intéressant pour apprendre les différences de Docker, Run, CMD, Entry Point. Si vous démarrez avec Docker, on vous a mis un lien sur un article qui explique bien les différences entre ces commandes. Voilà, c'est fait.
D'accord. Et juste CMD, Entry Point, la différence?
Ah, tu me demandes maintenant. Non, mais on a dit vite fait.
c'est l'instruction qui est lancée par défaut au démarrage de l'image, alors que l'entry point permet plus de flexibilité que commande en supportant les différents paramètres d'entrée.
Tu peux lancer un script shell,
en général, tu fais un shell. Ouais. Ce qui permet de lancer ce que tu veux finalement.
Tu peux l'override et tu peux proposer par défaut. Ce que tu veux.
Tandis que le run, c'est vraiment les commandes qui sont exécutées lorsqu'on build l'image, donc qui n'a rien à voir.
Ouais. Ok, Alors sinon, on a des conférences. Il y a Codeur en scène en édition en ligne. On en avait parlé déjà. C'est en novembre, les mardis à 19h et les jeudis à 21h. Donc là, ça va bientôt arriver. Là. 45 minutes de conf et 15 minutes de questions. Et ça sera sur Twitch et rediffusé sur YouTube. Donc si vous voulez le live, c'est sur Twitch. Et puis Emmanuel Demey nous a gentiment fait un crowdcast pour nous expliquer un certain nombre de conférences qui arrivent dans le nord de la France.
Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci aux Cascodeurs de me donner l'opportunité de parler à l'antenne et présenter trois conférences que nous sommes en train d'organiser sur l'île. La première, c'est Cloud Nord, une conférence dédiée au cloud, comme son nom l'indique, qui aura lieu en remote le 19 novembre 2020. Donc on a déjà annoncé quelques conférenciers, comme Guillaume, comme Alexis Moussine-Pouchkine notamment, mais on va en annoncer de nouveau, car le CP vient juste de se terminer. Les billets sont en vente, donc n'hésitez pas à aller sur le site cloudnord.fr pour avoir les informations qui sont liées à cet événement. Le deuxième événement que j'aimerais bien vous présenter, c'est Web Stories Conf. Donc on change de domaine, on était sur le cloud juste avant, et là on passe au web. Donc cette conférence aura lieu le 5 février 2021 à Lille. Donc elle aura lieu dans la CCI de Lille, l'ancienne chambre du commerce. Donc vous pouvez taper sur Google chambre du commerce de Lille, vous allez voir que le hall d'accueil où aura lieu la conférence est assez majestueux. Donc les ventes de billets sont pas encore ouvertes, mais on a commencé à annoncer des speakers internationaux comme Leonie Watson, comme Jeremy Keyes, comme Cassidy Williams ou encore Rémi Sharp. Alors si vous êtes pas développeur cloud, plutôt développeur web, n'hésitez pas à aller sur le site webstoriesconf.com pour avoir les informations sur cet événement. Et enfin, le dernier événement que nous avons dû annuler cette année, comme tout le monde, le DevFest, qui aura lieu cette année le 11 juin 2021, au même lieu que d'habitude, au Kinépolis de l'Homme. Donc là, on refera une communication d'ici décembre pour présenter l'événement, mais vous pouvez réserver déjà le 11 juin 2021 pour le DevFest Lille. Je vous remercie et à très bientôt.
Voilà, merci à Emmanuel d'avoir fait voilà, ce petit travail. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode avec des challenges techniques, de plateformes qui commencent à nous casser chauffer les oreilles.
On espère pour toi que ça va bien se passer, le
remontage. Ouais, voilà, c'est ça. Sinon, je vais devoir bruiter à la bouche mes camarades Guillaume et Arnaud sur une heure de
Tu vas en répéter tout ce que j'ai dit, ça va être sympa.
C'est ça. Ouais, Jenkins, il y a plein de trous, blablabla.
J'ai pas trop parlé, ça va, c'est bien, t'as de la chance. J'étais sur Twitter, je faisais le Twitter, ça va.
Ouais. Voilà, merci à tous et puis au prochain épisode.
Merci à tous, bonne journée.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.